Bonjour et bienvenue à Afrique Caraïbe avec Fulgence Blao au micro en ce jeudi 12 septembre. Voilà, mon invité est déjà avec moi en studio, quelqu'un que je connais depuis belle lurette, mais que je ne vois plus souvent comme avant. Il est toujours parti dans le tournée. Auteur, compositeur, guitariste, qui avait d'ailleurs sa première guitare qu'il a eu à fabriquer lui-même avec un bidon d'huile et du fil de pêche. Il va en parler comment l'idée lui est venue d'ailleurs. Parce qu'il a vu des guitares avec des amis. Il a dit non, moi aussi je veux jouer. J'ai fabriqué ma guitare, la mienne. Wesley, bonjour d'abord.
Bonjour.
Comment vas-tu?
Ça va très bien.
Parle-nous un peu de cette histoire de bidon d'huile avec fil de pêche, là, pour ta première guitare.
Oui, oui, c'est mon père qui a initié tout ça parce que lui, tu sais, j'ai grandi dans une famille de 7 enfants, en fait. Mais mes parents avaient des problèmes. Ils doivent partager le babysitting. Moitié-moitié, ou bien un jour 4, un jour 3, je ne sais pas comment qu'il faisait.
Il s'arrangeait.
Donc, il travaillait en même temps. J'étais toujours chanceux d'aller du côté de mon père dans le sens de babysitting, quoi.
Oui.
Et puis, mon père m'a traîné sur la plage avec lui pendant qu'il jouait dans un groupe de troubadours pour les touristes, quoi. Et puis, il commence à grager la guitare et tout. Et puis,
ça vient de là.
C'est ça, il me donne un petit shaker pour que je reste occupé, pour que je ne l'ennuise pas, quoi. Je prends mon petit shaker, je commence à secouer le shaker. Mm-hmm. Et puis, il a fait ça pendant une couple d'années, pendant un bon 2 ans, quoi. J'étais sur la plage avec lui, je jouais, dansais, tout ça. Et puis, finalement, un jour, quand j'avais 9 ans, je dis à papa, là maintenant, je veux toucher à ta guitare parce que c'est ce que je veux jouer. Mon père m'a dit, impossible.
Je peux bien imaginer son visage.
Exactement.
Son regard sur toi.
Exactement. La guitare était accrochée en l'air, en gros, parce qu'il ne voulait pas que les enfants touchent. Moi, j'étais tout petit, j'ai tiré les pieds pour l'avoir, mais je ne pouvais jamais l'avoir. Et puis, quand j'ai dit, papa, est-ce que vous pouvez me passer ta guitare? J'aimerais jouer comme toi. Mon père m'a dit, impossible, c'est cette guitare qui ramène de la bouffe à la maison. C'est cette guitare qui t'envoie à l'école. C'est l'argent que vous avez. C'est ça qui a sur la famille, vous mangez, tout ça. Mm-hmm. Mais étant que petit gamin, bon, je comprenais que j'étais né dans un pays pauvre, je comprenais comment les parents faisaient des efforts pour pouvoir nous envoyer à l'école, quoi. Puis j'ai eu une petite réflexion, j'ai dit, c'est vrai, si cette guitare nous emmène à l'école, j'aime ça aller à l'école. Ouais, si j'écrase la guitare que personne n'a à l'école, ce serait pire que juste de jouer la guitare. Mmh. Donc, j'ai fait travailler ma tête, j'ai regardé la guitare de papa, j'ai regardé la forme, j'ai regardé tout ça, quoi. Et puis, j'étais rendu dans les rues, marché, et puis j'ai vu un bidon d'huile. J'ai dit, ah, ça ressemble au corps de la guitare de papa, tu vois.
Bidon d'huile.
Ouais, c'est ça. Et puis là, je dis, OK, là, ça me prend une manche, la guitare de papa, une manche. J'étais allé voir le menuisier juste à côté. J'ai dit, écoute, est-ce que vous avez une manche? Je vais construire une guitare. Est-ce que vous avez une manche? Et puis lui, il m'a donné un morceau de bois. J'arrive à la maison, j'ai pris un couteau de cuisine et je commence à raser le bois et tout. Et puis
Il t'a même pas posé de questions, il t'a donné une manche.
Il m'a donné un morceau de bois. Il est comme, débrouille-toi, mon petit-fils, quoi. Et puis.
Tant que je ne lui demande pas de faire ça. Pour toi.
Et puis là, j'étais rendu sur la plage après, quand j'étais rendu dans les cordes, j'étais rendu sur la plage avec les pêcheurs et tout ça. Je leur ai dit, voici ma guitare que je suis en train de construire. J'ai besoin de cordes de différentes épaisseurs. Est-ce que vous pouvez me donner des morceaux de nylon que vous n'avez pas besoin?
Le nylon de pêche.
Le nylon de pêche.
J'étais culotté, ce petit
j'étais
garçon.
J'étais nuisible. Et puis donc, j'étais
culotté, ce petit garçon.
Et puis les pêcheurs m'ont dit, ah ok, ça c'est plus gros, ça c'est plus petit, il y a un petit bout ici, je te donne ça. Enfin, j'ai trouvé à peu près une dizaine de petits fils, quoi. Et puis, je suis arrivé à la maison, j'ai regardé le bois, je vois, oh, là maintenant j'ai besoin de clé. J'ai commencé à prendre un couteau, perforer le trou dans le bois et tout. J'ai mis un petit bout de bois comme les clés. Après ça, j'ai dit, papa, j'ai ma guitare maintenant. Écoute, regardez, c'est cloué, c'est bien arrangé. Donc, je vais l'accorder comme ta guitare. Et puis finalement, mon père m'a aidé à l'accorder comme sa guitare, avec un morceau de toile pour garder les fils en truc. Et puis là, j'ai commencé à jouer avec papa. Papa a mis sa main sur un accord. Moi, j'ai mis ma main sur un accord. Donc, je regardais même papa. Et puis, comme ça, j'ai appris à jouer.
Et c'est plus tard que tu as eu une vraie guitare.
Plus tard.
Pas une guitare bricolée.
Non, j'étais même rendu à amplifier cette guitare artisanale pour aller genre dans le réveillon de Noël avec les enfants.
C'est pas vrai.
Alors, bah oui, parce que ma mère a dit, ah ouais, il y a réveillon de Noël avec les enfants, ils changent des cadeaux et puis fête de Noël. Et puis là, maintenant, mon frère a regardé, il y a des transistors de radio, et haut-parleurs de radio. Après ça, j'ai donné un fil au technicien, ça fait bzzz tout le temps. Finalement, on a réussi à chanter 3 chansons de Noël la même année avec cette même guitare.
Donc,
la résilience, la résilience.
Incroyable, mais vrai.
Alors, voilà quoi.
Incroyable.
Quand on a grandi, on n'a pas de jouets, nos parents sont pauvres, ils ne peuvent pas nous donner des jouets. Donc, on doit s'imaginer et créer nos propres jouets.
Comme beaucoup d'enfants, comme beaucoup d'enfants d'ailleurs. Mais c'est très fascinant cette histoire. Pour ceux qui ont pu découvrir en écoutant, en t'écoutant, moi-même, je connais un peu seulement de ça. Je sais que tu as déjà fabriqué une guitare, mais les détails, je ne les avais pas. C'est ce qui fait que je suis parti par là. Alors, en 2019, ton 6e opus, tu te rends compte? C'est ce qui fait que c'est important de commencer par cette histoire de guitare, première guitare avec bidon d'huile et fil de pêche.
Oui.
Voilà. Et en 2019, 6e opus, comment on se sent? Quand on commence avec une guitare de bidon d'huile et fil de pêche et plus tard, on se retrouve avec des albums, des prix, des récompenses.
Le chemin est long. Le chemin est long. Mais on va jamais dire que le chemin était trop long. Parce que en ce moment, je peux dire que je suis un artiste qui reçoit tout ce que je reçois à ma juste valeur. Donc, j'ai pu construire une valeur au fil des années.
Oui.
Donc, avec toute la résilience, toute la pauvreté que j'ai rencontrée, ça m'a construit le caractère d'artistique que j'ai en ce moment, qui fait que, en ce moment, je peux dire que les prix que j'ai reçus ne viennent pas rajouter sur mes valeurs parce que je les avais construites bien avant.
C'est ça même qui a tiré d'ailleurs les prix.
Exactement. Voilà. Donc, je peux dire merci papa, merci maman, une bonne éducation, une bonne culture haïtienne qui m'a donné tout ce que je voulais. En fait, tout le monde, tu vois, quand on est rendu diaspora ou bien on est rendu hors du pays, on essaie de calculer tout ce qui ne marchait pas dans le pays, qu'est-ce qui fait que ça ne marchait pas. Mais je dis en mots que si je suis rendu là, c'est parce que ça ne marchait pas quelque part qui fait
que... C'est parce que tu viens de subir.
Exactement.
Alors avant de continuer sur ta carrière, ton parcours artistique, cette guitare-là, est-ce que tu as pu la garder quelque part pour les archives, pour ta mémoire personnelle? C'est-à-dire que de temps en temps, tu vas lui faire un petit clin d'œil. Tu vas la voir. Tu dis merci de m'avoir permis d'aller de l'avant.
Je voulais la garder. Ça a été resté jusqu'à 2010, il y a un tremblement de terre sur Haïti. Et puis toute la maison a été abandonnée.
Oui.
Tout était laissé sous les décombres. So, cette guitare est dans mes pensées.
Oui.
C'est là. En fait, je vais dire que c'est pas une coupure d'histoire. Au contraire, ça a raffermi mon histoire.
Malgré son absence.
Tu vois, je dis pourquoi pas commencer à partager cette histoire et à partager toutes ces valeurs que j'ai reçues à travers tout ça aux jeunes, la nouvelle génération et d'autres gens qui n'ont pas eu à passer toutes ces péripéties-là, mais qui ont eu d'autres challenges dans leur vie, qu'ils ont besoin d'entendre ce que moi-même je vis pour pouvoir leur construire une résilience eux-mêmes.
Oui, mais les défis ne sont pas toujours pareils. Et puis c'est ce qui fait que chacun de nous est unique. On rencontre des défis différents sur notre parcours de vie.
Exactement.
Cette école de vie où il n'y a pas de diplôme, comme on dit.
Exactement.
C'est la meilleure école.
Exactement.
Voilà, parce que chacun fait son parcours d'école de vie en fonction des rencontres, des expériences personnelles. Donc ça ne peut jamais être pareil que pour ta sœur.
Et puis ce que j'aime avec cette école, c'est que tout le monde devient lauréat.
Oui.
Tout le monde est lauréat. Parce que l'expérience que tu reçois, l'expérience qui te construit, tu vois, c'est plus qu'un diplôme, c'est plus qu'un doctorat.
Et puis c'est à toi,
c'est unique.
Personne ne peut te prendre ça.
Et voilà.
C'est ça les expériences de vie. Alors, tes amis d'enfance de Port-au-Prince, là, quand ils te voient. Pourquoi tu ris, Wesley?
C'est parce que j'imagine mes amis d'enfance.
Est-ce que tu as gardé le contact avec eux?
Oui, effectivement.
Pas tous, mais il y a quelques-uns qui sont actuellement proches de toi.
Effectivement.
Avec qui tu t'entends vous téléphoner.
Oui, effectivement. C'est sûr que avec ses amis, tu vois, il connaît c'est qui le vrai Wesley avant Juno, avant Félix. Donc moi, j'aimerais ça garder et ces contacts-là avec ces amis-là, parce que le vrai Wesley, c'est avant Félix, c'est avant Juno, c'est plutôt le Wesley qui a eu, qui a trimé, qui se construisait lui-même,
Oui.
que je pense que c'est ce Wesley aussi qui va rester. Pour longtemps avec la génération qu'on vit en ce moment.
Oui.
Oui, ces amis-là, ils sont très, très importants pour moi. Quand je les appelle, je suis tellement humble, je me mets tellement petit parce que ils connaissaient d'où je viens et ils connaissent mon histoire. Donc, il n'y a rien à cacher.
Après, c'est
Et
pas j'ai
voilà.
dit amis d'enfance.
C'est ça.
Pas ceux que tu as rencontrés quand tu as
Ouais,
connu la voix.
c'est
J'ai
ça.
pas les amis d'enfance qui ont galéré avec toi.
Exactement,
Ceux-là.
exactement. Parce qu'il y a des amis qu'on rencontre sur la route, c'est waouh,
Oh,
waouh,
ouais. Non, non,
waouh,
non, non. Ceux-là, tu peux
waouh,
pas
tout
aller
le
faire le
temps.
malin devant eux. Vous vous connaissez
Exactement,
depuis l'enfance, là. Quelle que soit la
exactement.
position professionnelle que chacun de vous a. C'est-à-dire, quand vous voyez, vous retournez toujours dans votre enfance. C'est ça qui vous lie d'ailleurs.
Exactement, ça nous rappelle d'où on vient.
Oui, c'est vrai.
Et puis ça éclaire notre chemin. En fait, à chaque fois qu'on se rappelle d'où on vient,
Oui.
donc on sait pourquoi on est là, pourquoi on est ici, pourquoi on fait ce qu'on fait en ce moment.
Avant de te poser une question, quand je vais te demander liberté dans le noir, ça te fait penser à quoi? Mais bien avant ça, on écoute de tes pièces musicales.
Le pou m toune nan peye m sou pou joutan m aftan Chak joun le den la priye pou lan misè suspon Mwen ekri pou m ka kope Senegal koupe kon Mwen konem Senegal kongo nago a kongo man Mwen kriye nou mwen kriye tet nou somba Mwen kriye nou mwen kriye tet nou gaga Mwen kriye nou mwen kriye tet nou panda Se nou kriye nou mwen kriye tet nou jakata Bona 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 e Bona bona e e e e e e e
Blackman Samba. Pourrais-je avoir un peu plus de jus là? Je m'entends très faiblement, alors que mon volume est à fond ici. Voilà. Wesley, Blackman Samba, ça parle de quoi?
Blackman Samba, c'est une chanson, comment je peux dire ça? Une chanson de rédemption.
Oui.
En fait, écoute, je voulais fêter les 220 ans de l'indépendance d'Haïti.
Des peuples haïtiens, oui.
C'est ça, première République noire
Oui, au monde.
reconnue au monde, 1er janvier 1804, 1er janvier 2024, 220 ans, pile boule. Et j'ai sorti Blackman Samba. Donc, pour réitérer la valeur du Blackman,
Donc, quand tu emploies le mot rédemption, ça résume tout, quoi.
c'est ça.
C'est ça, en gros, c'est ça. Merci. Port-au-Prince. Il est devenu rapidement auteur, compositeur, guitariste. À partir de sa guitare en bidon d'huile et du fil de paix, ça je vais pas oublier ça. En collaboration avec un large éventail de talents canadiens, internationaux, autres, Tiken Diafakoli, Paul Carniello, Mes Aïeux, Radio Radio et autres. Voilà, tu vois, on sait que tu viens vraiment de loin. C'est pas.
C'est ça.
C'est ça, les gens que tu as rencontrés sur ton passage.
Oui.
Voilà. Ta musique associe les racines du vaudou et du rara, un instrument traditionnel haïtien emblématique d'ailleurs, en passant par l'afrobeat et le hip-hop. Voilà. 2009, Révélation Radio-Canada. Elle a été couronnée. Puis il remporte le prix Babel Med Music en 2010 à Marseille et le prix à Good World de la Socan en 2016. Ça continue. Récemment, en 2020, tu as remporté le Canadian Folk Music Award, World Music Solo Recording, ainsi que le Independent Music Award aux États-Unis pour le titre Lolé Lolé, extrait de l'album Rapado Criole. Je pense que tu as encore la place pour mettre les. Alors, tes tournées qui t'ont fait parcourir le monde entier, comme je l'ai dit, ça fait. Au début, quand moi j'étais arrivé ici, on se voyait régulièrement, mais depuis que. Voilà, tu as pris ton envol, il faut le dire.
Oui.
Quand on ne voit pas un artiste qu'on avait l'habitude de voir, on se dit, ça marche très bien pour lui, il est en tournée. Ça va.
Exact.
Les États-Unis, Cuba, Haïti. Si je ne voyais pas Haïti sur la liste, là, je n'allais pas être content. Oui, c'est ton pays d'origine.
Exactement.
Voilà, Cuba, la Colombie, le Brésil, la Corée du Sud, la France, la Suisse, l'Angleterre, l'Espagne, le Portugal, l'Italie, le Cap-Vert, la Côte d'Ivoire. Tu as été en Côte d'Ivoire.
Yeah.
Tu as fait Abidjan.
Oui, j'ai fait Abidjan.
C'est quel festival
que tu as parti? Palais de la culture.
Palais de la culture.
Ouais, j'ai fait deux fois.
Le Maroc, etc. Et en 2021, tu as préparé la sortie du 7e album. C'est sorti déjà, Tradition?
Tradition, c'est sorti.
C'est sorti.
Ouais.
En partenariat avec le célèbre label américain
Kumbancha.
Kumbancha.
Yeah.
Oui. Quand j'ai dit Liberté dans le noir, 2012, ça te dit quoi?
Liberté dans le noir.
Parce que c'est ton premier.
Liberté dans le noir, c'est l'album qui m'a mis vraiment sur le marché international.
Oui.
Donc, j'avais sorti un autre album qui s'appelait Courage, mais c'était un truc, tout le monde était comme, ah ouais, il est jeune, il vient de sortir un truc, il a produit tout lui-même. Donc, il y avait personne qui voulait prendre des chances de me mettre en valeur parce que, tu vois, quand un artiste sort...
Avec Liberté dans le noir ou bien avec Courage?
Avec Courage.
Avec Courage.
C'est ça. Et puis Courage, c'était un album, tout le monde dit, OK, il a du talent, mais on attend le deuxième. Donc, c'est à partir de Liberté dans le noir que je commence à comprendre l'industrie. C'est à partir de là aussi que beaucoup de monde qui ne voulait pas faire affaire avec un nouvel artiste, qui soit disant à risque à 90%, on ne sait pas qu'est-ce qu'il va apporter, comment va être son show,
comment le public va réagir.
On avait toutes sortes de stéréotypes qui nous arrêtent, quoi. Donc, avec Liberté dans le noir, tout le monde disait que ce que je pensais, c'était ça. C'est un artiste qui est là pour de bon. Il a du potentiel. Donc Liberté dans le noir, ça a vraiment marqué mon footprint, comme on dit ça, mon empreinte dans l'industrie musicale qui me faisait rêver. Écoute, je faisais ça il y a un bon bout de temps avant. J'ai commencé à produire des gens. Tu m'as vu accompagner plein d'artistes africains, des artistes haïtiens, antillais et tout ça, pour construire vraiment mon caractère artistique. J'ai dû apprendre avec d'autres mondes. J'ai appris avec Momo Koulibaly. Je sais que tu connais bien Mohamed Koulibaly.
Oui, ouais, il est encore vivant. Il tourne encore, oui. Il a un festival bientôt. Là.
Donc là, tu vois, j'ai dû... Mon mentor, quand je suis arrivé à Montréal, il m'a pris sous son aile. Et puis tout ça, David Mobio m'apprend beaucoup de choses. Il était déjà dans la musique. Mm-hmm. Il faisait beaucoup de choses, donc il m'a appris beaucoup. Et puis avec ces gens-là qui m'ont encadré, donc je suis devenu ce que je suis devenu aujourd'hui. Mais en passant par Liberté dans le noir, encore, je peux dire que c'est une consécration pour Haïti. Parce que Liberté dans le noir. Ça, il y a deux facettes là-dedans. La liberté est apparemment dans le noir, cette liberté haïtienne. et le noir à la liberté en soi.
Ça a deux sens.
Deux sens.
Oui, ça fait d'une pierre deux coups. Quoi.
D'une pierre d'un coup.
Non, mais sincèrement, je suis tellement content. Tu vois, quand Catherine m'a dit, c'est Wesley qu'on a le 12, j'ai dit, hey, mais demain, tu connais Wesley? J'ai dit, ouais, c'est pas moi, tu vas demander ça. C'est pas moi, tu vas demander si je connais Wesley. Il dit, bah, bon, si tu peux le booker pour que voilà.
Exactement.
Voilà. Et en 2015, tu nous as sorti Haïti Étoile Nouvelle.
Oui, Haïti Étoile
Courage,
Nouvelle.
Courage n'est même pas sur ta liste ici.
Courage n'est pas sur ma liste. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui l'ont loupé parce que j'avais quand même un truc avec Universal qui me demandait de l'enlever. Donc, il y a le Major Label qui voulait que je l'enlève. So, c'est pour ça. Mais je vais ramener ça parce que ça fait partie de mon histoire.
Quoi. Je sais que j'ai une copie de Courage. J'ai une copie de Courage.
En 2015, je suis redevenu indépendant, artiste à temps plein, artiste indépendant. J'étais pas signé sous aucun label. Et puis j'ai dit que je vais faire un double coup. Je vais sortir Haïti Étoile Nouvelle et Immigrant en même temps.
En même temps.
Au lieu d'un album, je sortis deux en même temps.
Oui, après il y a eu Immigrant de luxe en 2017. Là, je me suis dit, mais il va pas laisser un peu le mot immigrant se reposer, là.
Non, quand je vois que immigrant, le monde faisait du coq à l'âne, truc. Là, maintenant, ils comprenaient pas ce que mon message, ils disaient que, ah ouais, immigrant, c'est un immigrant avec un grand J, avec un D à la fin. Ça veut dire que l'immigration se sert à la population ou bien à la communauté d'accueil en grand. C'est ça que je voulais dire.
Il y a un journaliste qui vient de poser une question comme ça sur l'immigration à Boucard. Boucard n'a pas été du tout content.
Hein. Exactement.
Ah ouais, il a dit, mais je suis tout sauf... j'ai été immigrant, mais pourquoi est-ce que quand tu m'invites à cette émission pour venir parler de l'immigration et tout ce que je sais faire, d'autres, ce n'est pas important, c'est mon titre d'immigrant qui te...
Exactement.
Voilà.
Exactement.
En gros,
moi,
ça me fait penser à ça
moi,
aussi.
Oui, moi, ce que je voulais, c'est que, en fait, les gens aimaient quand je parle de l'immigration, mais je n'aimais pas l'étymologie d'immigrant. Comme écrivain, auteur, je voulais changer ça, tu comprends, à mon image.
Oui.
Et puis je voulais dire que ces gens-là qui arrivent, ils viennent pas seulement chercher, ils viennent aussi partager leurs valeurs à la communauté d'accueil.
C'est ça.
Donc, reçoivent-les en grand.
C'est ce que beaucoup de gens ne savent pas. Les gens ne connaissent même pas le parcours d'un immigrant, quelqu'un qui a quitté son pays, qui allait ailleurs.
Exactement.
Il y a beaucoup de gens ici qui ne sont jamais sortis du Québec.
Exactement.
Même pas de Montréal.
Exactement.
Alors, le rapport avec ceux qui viennent d'ailleurs, c'est très compliqué.
C'est très compliqué. Voilà. En plus, dans les mainstream, par exemple, dans les médias qui sont beaucoup plus populaires, quand on parle d'immigration, on met des gens qui courent après la guerre, on met des gens qui courent,
qui
cherchent
vrai.
De la bouffe, on met des gens qui sont en train de faire un gros rallye qui marche par 20 000 pour se rendre à la frontière mexico-américaine. Donc,
l'image qu'on donne aux immigrants en général.
Donc, je voulais donner de la valeur à ces gens qui ont quitté leur pays, qui ont quitté leur...
Immigrants. Et immigrants de luxe, j'adore.
Moi, je rajoute de luxe dessus, quoi. Quand je vois que les gens n'écoutent pas, ils comprennent pas, ils n'entendent pas, je rajoute de luxe.
On va écouter une deuxième pièce de toi, Wesley. J'ai choisi Mama Africa.
Allez-y.
Oh oui. Et oui, on y va.
We'll be right back.
Merci, merci. Wesley, Mama Africa, hors onde, il me disait, oui, vas-y, rapidement.
Donc, Mama Africa, c'est une chanson que j'ai produite avec David Mobio, qui a maintenant son projet qui s'appelle Mobio, et puis Mohamed Koulibaly, que vous connaissez bien, qui est un super bon producteur aussi dans la communauté ivoirienne, qui c'est une communauté vraiment qui m'a encadré à mon arrivée ici à Montréal, quoi. Je dois rendre un petit hommage à eux, quoi.
Merci beaucoup. Pour la dernière minute qui nous reste, rapidement, un petit mot à nos auditeurs.
Donc,
qu'est-ce que tu nous prépares comme 8e opus?
Donc, si on parle d'album, on va avoir un prochain album qui s'appelle Makaya.
Oui.
Au mois de... Je ne vais pas mettre 2 mois dessus, je vais mettre de l'année
2025.
Donc, Makaya va arriver en 2025. Si vous voulez me suivre sur l'Internet, vous allez voir Wesley Ben sur YouTube.
Il est sur toutes les plateformes numériques.
Exactement. Wesley officiel,
ouais,
sur Instagram.
Wesley Ben.
Exactement.
Merci beaucoup à toi.
Donc, merci beaucoup de m'avoir reçu. Merci beaucoup de faire partie.
Tu vas revenir pour nous parler de Makaya.
Exactement. Définitivement.
Merci Wesley.
Merci.
Voilà. Restez à l'écoute après la petite pause publicitaire. Le prochain invité avec moi en studio. Merci Wesley.
Merci beaucoup.
Vous écoutez Afrique Caraïbes avec Fulgence Blas.
Oui, c'est la deuxième édition de l'émission. Merci à Wesley qui est passé nous voir en première partie d'émission. On l'attend pour son nouvel album Makaya qui va sortir en 2025. Et maintenant, qui j'ai ici avec moi en studio, Saad Sarr, qui a fait son premier spectacle d'ailleurs au Balatou le 5 septembre passé. J'ai pas pu me déplacer pour aller le voir. J'aurai l'occasion de le revoir s'il est encore là à Montréal. C'est sa première tournée nord-américaine, si je ne me trompe pas, au Canada.
Yes.
Voilà. Donc, quand j'ai vu le prénom Saad faire référence à la récolte en CRR, tout ça bien défini, hein, et à la résurrection en Wolof. Qui t'a donné ce nom? Ton papa ou ta maman?
En fait, je ne sais pas, je suis né et ils m'ont nommé Saad, donc ça c'est un nom célèbre. Ça c'est un nom célèbre. Et je n'ai pas voulu changer mon prénom en tant qu'artiste d'Angola.
Et c'est, papa et maman ne sont pas du même groupe ethnique?
Si.
Les deux sont célèbres?
Yes.
D'accord. Je sais que, je ne suis pas originaire du Sénégal, mais je sais que le groupe célèbre, le peuple célèbre, c'est les pêcheurs.
Oui, en fait, il y a les Sere Nyominka et les Sere Sinsin. Et nous, on fait partie des Sere Nyominka, c'est les Sere qui sont sur les îles du Saloum. D'accord. Donc, naturellement, c'est les pêcheurs et c'est les voyageurs aussi.
Ils voyagent beaucoup.
Ouais, yes.
Des grands navigateurs.
Oui,
voilà.
Très grands navigateurs. Voilà.
Alors, ça, t'as pas commencé la musique hier, hein?
Non, c'est vrai.
Je suis allé me balader sur le site pour savoir, depuis que Yannick de Production Nuit d'Afrique m'a envoyé les infos sur toi, je me suis dit, il faut que j'aille voir au moins ce qu'il a fait. Pourquoi maintenant Montréal pour jouer au Balatou le 5 septembre? Tu as parcouru le... Puis j'ai vu que tu... Depuis 10 ans, tu as pas mal fait des choses.
Ouais.
D'ailleurs, tu dois te déplacer bientôt au Maroc, là.
Yes, effectivement.
On va parler de ça un peu plus tard. Okay. Qu'est-ce qui t'a attiré dans la musique?
Qu'est-ce
qui a fait? Quand est-ce que le déclic est là? Est-ce que papa et maman font de la musique?
Non, en fait, sous mon père, c'est pas un musicien professionnel, mais naturellement, c'était un très bon mélomane. Ça veut dire que, c'est un très bon mélomane. Donc, ça veut dire qu'il jouait un instrument. Et je suis né dans une famille où notre environnement, il y avait déjà cette musique, il y avait déjà toute la musique. Donc, naturellement, lorsqu'on est jeune, on voit ses frères et ses sœurs un peu jouer à la guitare, jouer au piano, jouer à tous les instruments. Donc, naturellement, par curiosité, je jouais à la guitare à l'âge de 11 ans, juste rapidement. Mais c'était pas pour être un musicien professionnel, c'était juste pour pouvoir avoir un outil pour pouvoir exprimer autre chose. Et c'est important lorsqu'on est jeune enfant d'avoir plusieurs outils, le sport, le football, le basket et la musique aussi. Donc voilà, la musique est venue à moi de manière hyper simple, hyper naturelle. En fait, je ne voulais même pas être artiste parce que je ne me définissais pas comme un musicien.
Tu ne te voyais pas comme artiste?
Non, pas du tout. Tu vois, c'était juste pour jouer, voilà, et exprimer quelque chose. Et après, de fil en aiguille, je suis parti au lycée, je jouais, et je commençais à reprendre certaines chansons de Bob Marley, certaines chansons, voilà, certains classiques. Et après, tu vois, il y a un âge où lorsqu'on est à l'aide de la puberté, vers 16 ans, 15 ans, tu vois, c'est un âge où, en général, ces jeunes, à cet âge, ils se posent énormément de questions. Il y a beaucoup de solitude, il y a beaucoup de remises en question. Et effectivement, ça se trouvait que je jouais à la guitare. Donc, naturellement, c'est les premiers morceaux, les premières chansons, les premières compositions. Voilà.
Ouais, est-ce que tu t'es dit, est-ce que le bégaiement, c'est depuis ton enfance?
Oui.
Est-ce que tu as vu que c'était un handicap pour toi, ou bien tu te dis...
Non, pas du tout.
Moi, parce que la plupart du temps, les gens qui bégayent, moi j'ai un comme ça dans ma famille, quand ils chantent, ça bégaye plus.
Il suffit
qu'ils ouvrent la bouche, c'est parti.
Ouais,
mais c'est quand ils parlent. Mais quand ils chantent comme tout le monde.
Oui, c'est normal. Parce que je pense que en fait, c'est juste un mécanisme psychologique. C'est-à-dire que lorsque tu chantes, certains mots sont déjà maîtrisés.
Oui.
Donc tu n'as pas besoin à chercher les mots. Et lorsque tu bégayes parce que tu cherches des synonymes.
Ah.
C'est juste ça, en fait, c'est juste ça. C'est un truc scientifique. C'est que lorsque tu lis et tu maîtrises les mots, ils sont déjà là. Donc, en fait, ça
ils sont déjà mémorisés.
Oui, voilà, voilà,
la mémoire n'a plus bien fait un travail pour ça. Oui, alors que quand tu parles, ça dit c'est toi qui,
voilà, c'est toi qui cherches les mots,
cherche les mots ton, voilà, ton vocabulaire,
voilà,
et en fonction de la richesse de ton vocabulaire, bien sûr.
Voilà,
sinon. Alors, comment s'est passé le spectacle au Balatou? Tu as chauffé le coin?
Ah, je sais pas, c'est aux gens de me dire, je sais pas.
Non,
sais
mais quand même, c'est toi qui as pris le micro.
Non, ça, en fait, ce que je veux dire, c'est que des fois, certains artistes, dans leurs propres imaginaires, ils peuvent penser qu'ils ont fait un show, et peut-être que non. Genre moi, en général, je fais qu'une expression, je m'enlève. Et après, si les gens ont vibré, je pense que les gens ont vibré, que les gens ont...
Est-ce que toi-même, selon toi, ce que tu as vu là, est-ce que tu les avais vibrés dans la salle? Tu les as vus en train de se trémousser?
Oui, c'est sûr.
Alors, c'était un beau spectacle.
Ouais, nice, cool.
Ah, tu viens pas pour la première fois à Montréal pour faire n'importe quoi quand même. Hein?
Ça dépend, tu vois.
Alors, et le groupe, il existe encore, Saad?
Et le groupe, yes, en fait, c'est la même chose. C'est Saad and the Natal Patchwork, mais à un moment donné, sur la communication, c'était plus facile de dire Saad. Ouais, parce que Saad and the Natal Patchwork, c'était hyper long, et que des fois on arrivait sur certains big festivals où les gens ils aimaient notre projet mais ils n'arrivent pas à retenir. Ils disent, ah ouais, il y a un nice projet qui a joué là mais on ne se rappelle plus. Donc en termes de marketing, c'est très important de dire oh, ok, là il faut un peu changer, c'est vraiment très long, il n'y a pas de sens, c'est juste Saad et c'est la même musique, c'est les mêmes musiciens, c'est le même esprit.
Oui, c'est le même groupe, c'est les mêmes artistes.
Voilà, tranquille.
Voilà, en 10 ans de carrière, tu as su façonner en foisonnant le patchwork, comme tu dis, festif d'afrofusion pour faire rayonner ton message avec ton thème de voix langoureux pour des gens qui apprécient ta voix, et si particulièrement pan-African music.
Ah, ouais. Good.
C'est ça, c'est cool. Hein?
Cool, ouais.
Ouais. Alors, quand tu es arrivé ici au Canada, est-ce que les gens, comment est-ce que les Nuits d'Afrique t'ont découvert?
Je pense que Nuit d'Afrique, moi j'ai déjà, j'ai un pote à Guillaume. Et je pense qu'il y a certains membres de Nuit d'Afrique, ils m'ont déjà rencontré autre part, genre en Europe.
En Europe, voilà, en dehors de Montréal.
Yes, tu vois, en dehors de Montréal, parce que j'ai joué au South by Southwest à Austin en l'an 2017-2018.
À Austin?
Yeah. Tu vois, en l'an 2017-2018.
Ah, c'est aux États-Unis là?
Yeah, ouais, tranquille. Oui. Et je pense qu'ils m'ont rencontré là-bas. Et après, nous, on voulait venir à Montréal, ça fait plus de 5 ans, mais chaque fois, ça s'est pas fait. Et voilà, et toutes les choses, elles arrivent à un moment bien donné.
Ouais.
Voilà, je pense que c'était juste le...
Quand la période programmée est arrivée, de toute façon, on ne peut plus aller contre, c'est fait.
Yeah,
de toutes les façons, cette histoire de passé, de futur et autres, c'est une illusion. Tout ce qui est là, c'est ce qui vient de se passer, c'est ce qui vient de se passer le 5 septembre au Balatou.
Voilà,
ça c'est le plus important. Alors, c'est ce mélange de rythmes. Quand tu as commencé à vraiment à t'imprégner dans la musique, tu t'es dit, je ne vais pas faire comme les autres.
Oui, c'est important.
Parce que les autres ont déjà fait. Ils ont déjà mis le pion quelque part et tu te dis, j'ai envie d'être moi-même.
Moi-même, ouais. C'est important, tu vois. Par exemple, lorsqu'on est artiste, c'est normal. On peut prendre un an, deux ans, trois ans avec plusieurs influences, à prendre des influences d'un peu partout. Mais à un moment donné, il faut que ces influences, qu'on sache les synthétiser et en faire something, en faire quelque chose. Et que faire du Richard Bona, par exemple, c'est nice. Mais il y a déjà un Richard Bona. Il y a déjà un Fela Anikulapo.
Il y a déjà un Babamal.
Il y a déjà un ça et ça. Et en général, et c'est important aussi que l'artiste fasse une recherche sur soi-même, sur ses influences, et essayer de se réapproprier de tout son environnement, de toutes ses influences qu'il a pu acquérir et en faire something que c'est lui. En fait, en général, sur la musique, et un reflet de l'être humain. Donc, c'est que toutes mes expériences de vie, sur mon environnement, sur ma manière de vivre, elles reflètent ce que je suis.
C'est le reflet de la société dans laquelle on vit. Quoi.
Simple, voilà.
Les rapports interpersonnels avec les autres humains, tout ça.
Et après, en musique, tu vois, il faut être un genre intelligent, quoi, savoir se positionner, tu vois. Juste savoir se positionner, savoir où se mettre.
On va parler un peu, on va écouter une de tes pièces là d'abord avant de continuer le bavardage, l'échange entre nous. J'aime ça. Attendez, c'était la voix de Saad. Tassou café, ça veut dire quoi? La tasse de café?
Café, juste simple, une tasse de café. Ouais.
Tassou café, quand j'ai vu ça, il dit bon, ça veut dire une tasse de café. On n'a pas besoin d'université, un diplôme universitaire pour comprendre ça quand même. Ouais. Alors, quelle a été la source d'inspiration pour cette pièce musicale?
Déjà, déjà une tasse de café, parce que le café, le matin, lorsqu'on se réveille, elle nous réveille.
C'est ton compagnon numéro un le matin?
Genre, yes. Yes, tu vois, elle nous avait... Et c'est important de dire qu'en fait, on doit avoir une voix de café, une voix qui éveille le monde entier, tu vois. Et la tasse de café, pour faire allusion au Sénégal, chez les Mourides, les disciples de Cheikh Amadou Bamba, et tous les jeunes...
Les Mourides, c'est quoi?
Les Mourides, c'est une confrérie soufie à Touba, dans la ville de Touba.
Confession, j'ai entendu ce nom-là, Touba.
Touba soufie, tu vois, Touba
soufie. C'est une ville très religieuse.
Yes, très religieuse. Et par exemple, à Touba, les Sénégalais se sont réappropriés d'un café. Et qu'on dit café Touba. Le café Touba, c'est un café qui est fait spécialement chez nous. Et tous les jeunes de 20 ans, 25 ans, lorsqu'ils n'ont pas de l'argent, ils font un petit business de café Touba. Au Sénégal, il y a beaucoup de business de café Touba. Et les jeunes, ils arrivent à en vivre parce qu'au Sénégal, c'est un pays hyper spirituel et on sait que ça marche.
Mais ce café Touba, il n'est pas fabriqué à Touba.
Non.
C'est du café importé quand même.
C'est du café importé avec une petite recette que le Sénégalais a changé sur le goût.
Avec la flaveur sénégalaise.
Yes, voilà. Et ça, c'est, même
c'est tout, quoi. Le café. Parce que je sais que le Sénégal n'est pas un producteur de café.
Sûr,
peut-être en Casamance.
Non.
Il n'y en a pas aussi
là-bas.
Parce que c'est la forêt.
Oui, mais bon, Sénégal. C'est pas un pays tropical.
Il
n'y
a pas de café là-bas.
Voilà, il n'y a pas de café.
Fondateur du festival Stéréo Africa de Dakar, parle-nous un peu de ça, s'il te plaît.
Yes, On a...
Est-ce qu'il existe encore?
Oui.
Oh oui, d'accord.
Ouais, mmh. si, oui, ouais. Mmh. En fait, c'est un festival de musique du monde, musique fusion, musique alternative. Parce qu'au Sénégal, il y a énormément d'espace pour le hip-hop et pour la musique traditionnelle. Mais tous les artistes qui font une autre musique, ils n'ont pas un lieu, un espace pour pouvoir s'exprimer. Donc nous, on s'est dit que c'est important d'abord qu'on puisse inventer un label de musique pour pouvoir faire de la production, il y a de la production, du booking, sur du management,
oui.
sur certains projets que nous, on juge que c'est des projets qui peuvent s'exporter à l'international.
À l'international,
et oui. Après, on a jugé important de prendre la place et d'organiser un festival de musique, parce que les gens ont tendance à critiquer chez nous, que ce n'est pas hyper sérieux, que tous les festivals ne sont pas bien faits, que ce n'est pas bien organisé. Et comme moi, avec notre équipe, ça fait des années que nous faisons un peu partout sur les festivals, on se dit, il ne faut pas rester là à critiquer. Il faut qu'on vienne chez nous et qu'on essaie de se proposer.
Quand on n'aime pas ce que les autres font, il faut venir faire mieux que ça.
Yes, effectivement. Et voilà, et qu'on s'est dit, on met en place un festival de musique. Donc maintenant, aujourd'hui, en trois ans, il fait partie de ceux des festivals les plus bigs au Sénégal de musique du monde. Et là, on en est vraiment fiers aujourd'hui. Ouais.
Est-ce que les bras sont ouverts à tous les artistes africains?
Yes, effectivement. Et chaque année, il y a des projets africains, il y a des projets européens, il y a des projets locaux.
Et cette histoire de showcase du Visa for Music au Maroc, là, bientôt, là, en novembre 2024.
Yes, en novembre.
Qu'est-ce que tu t'en vas faire là-bas? Comment tu es rentré? Comment ils ont mis la main sur toi?
En fait, je suis déjà passé au Visa en 2016.
C'est pas ta première participation?
Non, en fait, c'est pas ma première participation. Je suis passé en 2016. Et c'est en 2016, lorsqu'on est passé au Visa for Music, on a enchaîné avec une tournée de 4 mois. C'était avril jusqu'à août. On est parti partout en Europe. Et là, après 8 ans après, et là, on est encore resélectionné au Visa for Music, au showcase. Donc, naturellement, nous, on veut juste aller au Visa for Music pour faire un show, pour pouvoir prendre derrière beaucoup de réseaux de booking et de festivals visés un peu ailleurs. Donc, voilà.
Mm-hmm. Wow. Et le nouvel album qui est en préparation?
Il est toujours en
préparation. J'aime bien ça. Les sonorités des funk des années 70 en Afrique de l'Ouest.
Yeah.
Quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais à qui il parle? À quel artiste 70 des années funk? Et puis c'est vrai, c'était de la musique funk pop.
La funk disco, je parle de Orlando Julius, je fais allusion à Thomas. Orlando Julius, pas Thomas, et il y en a vraiment énormément. C'est que c'est important, heureux pour moi, de revenir sur la musique qui existait sur la post-colonie, juste après la colonisation. Juste après la colonisation, en 1960, les années 70. En fait, c'est les années où cette musique ouest-africaine était hyper authentique. Et qu'aujourd'hui, nous, avec notre génération, on est un peu nostalgique de cette musique qui existait avant. Et c'est hyper important que cette nouvelle génération puisse s'imprégner de cette musique qui existait avant. Parce que moi, je vous rappelle, lorsque je suis plus jeune à Dakar, à la radio, on écoutait sur la musique de la Guinée-Bissau, de la Côte d'Ivoire, du Ghana et du Nigeria. C'est-à-dire qu'on n'est pas de frontière. À la radio, on avait l'impression que toute l'Afrique de l'Ouest, c'était sur les mêmes artistes et les mêmes influences. Après,
mais c'est resté comme ça, non? Est-ce que
non.
Les nouveaux médias font autre chose?
Je pense que cette nouvelle jeunesse n'est plus ouverte musicalement.
Qui vient d'ailleurs?
Yes, à ce qui se passe en Afrique, d'ailleurs.
Le reste de l'Afrique.
Donc, donc nous, on pense que c'est hyper important.
Je croyais qu'avec la nouvelle technologie, ils étaient mieux. Que par rapport à l'ancienne génération qui n'avait pas ces outils technologiques à sa disposition.
Oui, je pense qu'aujourd'hui, avec ces nouvelles technologies, il y a beaucoup de jeunes africains, ils veulent juste faire une référence à l'Occident. Donc, ils savent ce qui se passe en Occident, ils savent
c'est
tous
là où
les big artistes en Occident, mais ils ne savent pas même sur leur propre culture et leur propre richesse musicale qui existait avant.
Parce que c'est parce que la télé leur montre.
Effectivement, et moi, j'ai envie de le ramener, ce que la télé ne nous montre pas, en fait.
Quel est le conseil que tu as donné à la nouvelle génération, à la génération qui vient après toi, pas les gens de ta génération, qui veulent se lancer dans le milieu musical, qui veulent, je veux faire comme ça, je veux gagner ma vie avec ma voix, avec ma guitare. Et bien avec mes gens parce que je sais danser. Quel est le conseil que tu as leur donné?
En fait, moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de propositions. Mmh. Avec ces nouvelles générations, l'an 2000, les années 2000, il y a beaucoup de propositions. C'est qu'aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, avec Spotify, Deezer, tu vas voir tout le temps des milliers d'artistes partout qui sortent tout le temps de nouveaux projets, tout le temps. Mmh. Donc, effectivement, donc, qu'est-ce qui va faire la différence? C'est pas juste avoir un micro et savoir chanter et avoir un studio chez lui. Mmh. Pour moi, c'est le propos qui va faire changer ces choses.
C'est-à-dire le propos qui est véhiculé, quoi.
Yes, mmh. Un seul propos à véhiculer. Mmh. Et c'est quels sont ceux les imaginaires que ces artistes vont représenter. Mmh. Et c'est ça qui va changer. Parce qu'aujourd'hui, on voit énormément de propositions. Énormément de propositions. Jusqu'à un moment donné, nous, moi, j'ai plus le temps d'écouter un EP. J'ai plus le temps d'écouter un EP. Genre, une musique, elle vient, j'écoute une seconde, 20 secondes, et c'est fini. Donc, je pense que cette nouvelle génération, c'est une nouvelle génération qui a énormément de choses à faire parce qu'on est dans un monde hyper mondialisé, oui, où cette voix africaine n'a pas énormément de place. Donc, we have to work really hard for. Voilà. Yeah.
Oui, je comprends. Il ne faut pas les décourager. Ils ont envie de gagner leur vie comme toi.
Oui,
ils ont envie de suivre vos traces, toi et les autres, bien sûr. Il ne faut pas, d'une manière de dire, bon, chacun, il faut être persévérant quand même.
Oui, je pense que c'est ça que je veux dire. Parce que les gens, ils pensent qu'aujourd'hui, c'est juste avoir une nice voix, mm-hmm, avoir une très belle image qui fait que ça marche. Non. Mm-hmm. En fait, je pense que c'est tout un système. Il faut être rigoureux et très discipliné, mmh, et sauter sur les opportunités aussi, parce qu'il, oui, y a beaucoup d'opportunités.
Il faut savoir sauter sur les opportunités.
Yes. Right, no.
Et avoir un petit talent dans le milieu du réseautage. Quand on va faire du réseautage, quand on va à une rencontre ou bien à un festival ou bien à un spectacle quelque part le soir, mmh, on ne reste pas dans son petit coin.
Yes.
Si tu es venu, c'est que tu as envie de rencontrer d'autres personnes. Je vais te laisser au moins la parole pour quelques minutes là. Non. Comment la rencontre s'est faite?
Tu parles du festival, you can talk.
Bon, déjà, bonjour.
Bonjour, oui.
Bon, moi...
Présente-toi, oui.
Donc, je m'appelle Safia. Mm-hmm. Je fais partie de l'équipe de Sahad. Je fais aussi partie de l'équipe du label Stereo Africa au Sénégal, mm-hmm, ainsi que de l'équipe de production du festival Stereo Africa. Mm-hmm. Donc, moi, il y a 4 ans, j'ai déménagé au Sénégal pour des raisons d'un stage jeune professionnel. Et très rapidement, j'ai rencontré Sahad et tous les projets. Mm-hmm. J'ai été happée par le propos, par la mission, par les ambitions aussi. Et un peu cette mentalité-là aussi très ouverte, très accueillante, mais beaucoup aussi dans la décolonisation, aussi la remise en question, le rebalancement des pouvoirs et beaucoup d'insufflation d'espoir. Et en fait, avec toute l'équipe, c'est quelque chose qui me parlait énormément. Et ben c'est depuis 4 ans, mais je fais partie de l'aventure.
Tu n'es même pas retournée en France?
Je suis montréalaise.
Tu es montréalaise. Ouais. Tu n'es même pas retournée à Montréal. Tu te dis, moi, le Sénégal, je pose ma valise là.
Ah oui, absolument.
Ah ouais.
Ouais. Sans hésitation.
Bravo.
Merci.
Tu as pu la séduire avec ton parcours, ton art. C'est ça, ton projet.
Ouais, je pense que naturellement, un artiste, il rassemble tout le monde. Mmh. Parce qu'il y a des gens... Un artiste ne se fait pas tout seul.
C'est ça.
Et c'est important aussi que les artistes aussi savent que c'est une équipe qui est derrière, en général, de tout ce qu'ils voient. Mmh. Et que moi, si je suis bien entouré avec des gens où on a cette même vision, mmh, aussi un même engagement artistique et culturel, voilà, pour pouvoir expander, oui, en Afrique, en France, en Europe, mmh, et aux États-Unis.
Oh, yeah. C'est facile de travailler avec eux? À toi, je pose la question.
C'est à moi.
Est-ce qu'il est sympa? Est-ce qu'il est gentil avec toi?
Sympathique, oui, absolument.
Oui.
Mais je pense qu'une des plus grandes valeurs aujourd'hui, c'est une personne extrêmement rigoureuse. C'est une personne extrêmement rigoureuse et c'est une personne qui donne beaucoup de chance à beaucoup de mondes différents. Il a un très grand espoir en l'humanité et, mmh, il voit la plupart du temps l'humain derrière chaque personne qu'il rencontre et non pas les défauts. Et ça, c'est vraiment quelque chose avec laquelle, dans la culture du travail de façon générale ou avec, même avec des hommes, hein, de façon générale, c'est quelque chose de très difficile à trouver de nos jours, personnellement. Mmh. Et en fait, c'est cet humanisme-là aussi qui est très rassembleur. Mmh. Et donc, oui, il est facile à travailler, très exigeant, très rigoureux, mmh, mais facile à travailler. Avec.
Oui, la rigueur, c'est quoi? Ça fait partie du professionnalisme.
Exact.
Voilà, c'est vraiment... Voilà, allez, laisse tomber ton téléphone, ouais, là, on va continuer la conversation, voilà.
30, je suis dans la conversation, je suis dans le booking, tu vois.
Alors, est-ce que... Oui, cet album-là.
Ouais.
Ce nouvel album avec les sonorités fin des années 70, là, quand est-ce qu'il verra jour?
Je pense qu'il...
Faut pas nous donner des fausses dates.
Un truc approximatif.
Ouais, là,
je pense qu'approximativement, on va commencer à entendre les premiers singles de ce prochain album vers octobre et novembre. Le premier single de ce prochain album.
Tu parles de octobre 2024, là?
Yeah, octobre-novembre, là.
De toutes les façons, comme tu t'en vas à Dakar ou vous retournez à Dakar, je ne saurais même pas où l'attraper pour lui demander où est
le single. Oui, je pense que... Et en
octobre, là, c'est le... Octobre, c'est le mois prochain, là.
Genre le mois prochain, fin octobre, début novembre.
Début novembre, on aura ça, un single.
Au moins, le premier single va être là.
Ok, d'accord.
Et après, on est en train de voir là, en ce moment où se positionner. Soit on sort l'album peut-être au mois de février ou au mois de mars.
Début 2025, quoi.
Il y a deux
non, mais on aimerait avoir au moins une, deux pièces de l'album avant que ça ne vienne complètement sur le marché.
Si.
Au moins une à deux pièces.
Sûr.
Voilà. Un dernier mot pour toi. Alors... Parce que la différence de, je ne sais quoi, la différence de, du professionnalisme, comme on dit, ou bien du travail que les artistes ici ont, il y a beaucoup de dans le milieu de l'art, les gens ont beaucoup plus de possibilités que les artistes en Afrique en général. Mmh. Tu as vu, quand même, les gens travaillent avec les petits moyens qu'ils ont à leur disposition en Afrique, et ça leur permet quand même d'avancer. Est-ce que tu as pu remarquer ça au moins, que ce n'est pas les mêmes... Ouais, ils n'ont pas les mêmes dispositions que les artistes ici, quoi, qui ont droit à tout presque.
Ah oui, vraiment. Surtout en termes de production du festival ou aussi dans sa carrière personnelle. Mais je pense que ce que ça amène le plus, ce qui pour moi a été le plus remarquable, c'est en fait c'est la créativité.
Oui.
Parce qu'en fait, avec peu de moyens, beaucoup plus de créativité. Parce qu'il y a beaucoup moins d'assises. Donc, on est beaucoup moins sur des acquis, des assises.
C'est ça.
En fait, c'est la créativité et c'est aussi le rassemblement qui permet aussi de générer de nouvelles avenues. Et c'est ça qui est très, très... c'est ça qui est magnifique.
Alors, merci bien. Saad, un dernier mot.
Yes, merci beaucoup à vous. Merci beaucoup de nous avoir invités. Yes, et de dire aux gens que je joue demain un last show, une petite pub à la marche à côté.
La marche à côté, ouais, c'est sous Saint-Denis. C'est quand
à la petite marche. Ouais, merci beaucoup.
Ah oui, parce qu'il y a la grande marche et puis la petite marche à côté.
Vois, à la petite marche, on joue le vendredi.
Mais tout ça, c'est la petite marche.
Oui, genre, tu vois, on joue le vendredi dans une formule plus réduite à 21.
Demain?
Yes.
Demain?
Ouais.
À quelle heure?
À 21h.
À 21h.
Yeah.
Alors, les amoureux de la musique, ceux qui ne connaissent pas la musique des Saad, faites le déplacement demain à 21h, c'est demain vendredi, bien sûr.
Yeah.
À la petite marche, c'est juste Saint-Denis.
Ouais.
En face de l'école des Beaux-Arts.
Yeah.
Voilà. Et puis, oui, t'aimerais ajouter quelque chose? Non, rien du tout. On a encore 2 minutes là-bas. On m'a écouté. Merci à vous deux. Merci à toi,
yes,
Saad. Rappelle-moi ton nom, s'il te plaît.
C'est Safiane.
Safiane, merci de faire le parcours artistique avec eux. Et puis on termine la dernière minute avec le reste de la pièce. Mais en attendant, merci à toi, Samuel. Je dis merci à Wesley. Merci à Catherine Bouderon, la recherchée de l'émission, et à tous les fidèles auditeurs pour leur fidélité. Et on termine en beauté avec la pièce Tassou Café de Saad. Et sur ce, prenez soin de vos minutes, oui, de vos secondes. Je vous dis ciao, à la semaine prochaine. Café, yeah. En el blanco café.
tout bas des rêves.